Luc 22, 39 à 46. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Nous étudions l'évangile de Luc depuis un certain temps, et nous disons que cet évangile est en quelque sorte un récit de voyage. Un récit de voyage, un voyage, le voyage de Jésus vers Jérusalem, ce voyage, ce cheminement vers son rendez-vous avec la croix. Et ici, c'est la fameuse scène dans le jardin de Gethsémané. Luc ne précise pas que c'est un jardin. À Gethsémané, il dit qu'il est allé à la montagne des Oliviers. Et c'est les autres évangiles qui précisent qu'il y avait un jardin là, le jardin de Gethsémané. Justement, en bas de la montagne des Oliviers, il y avait un jardin des Oliviers. Et d'ailleurs, le mot Gethsémané signifie pressoir à olive. Donc, on peut très bien imaginer ce jardin avec des oliviers. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des oliviers qui sont plus vieux de 1000 ans qui sont là. Et vous pouvez aller dans le jardin de Gethsémané. Et voilà Jésus qui fait cet arrêt, cette halte dans son voyage vers la croix à Gethsémané. Et je me suis dit que ce moment dans le jardin de Gethsémané, c'est un peu comme la dernière sortie avant le péage. Vous connaissez les autoroutes par ici, on vous indique souvent une dernière sortie avant le péage. Et là, à cette dernière sortie, vous avez encore l'occasion de sortir, vous avez encore l'occasion de faire demi-tour, vous avez encore l'occasion de rien payer. Mais si vous vous engagez dans la voie du péage, là, vous êtes engagé pour un certain moment. Récemment, d'ailleurs, j'ai raté une sortie près de Narbonne. Je voulais aller du coin de Narbonne, je revenais dans l'autre direction. Et voilà, j'ai dû aller carrément jusqu'à Carcassonne pour me retrouver, pour me retourner. Telles sont les autoroutes une fois engagées, c'est comme ça. Et ici, c'est l'enjeu de Gethsémané. Il y a encore une occasion de sortir, de faire demi-tour, de prendre la sortie facile pour Jésus. Et c'est ça la question, c'est ça l'enjeu de ce jardin, de ce moment de lutte. Est-ce qu'il va prendre la sortie facile? Est-ce qu'il va faire demi-tour? Ou est-ce qu'il va s'engager dans la voie coûteuse? Et quand on lit ces versets, on s'aperçoit qu'il y a une grande lutte qui s'est passée dans le jardin de Gethsémané. Mais à la fin, on a l'impression dans cet évangile, comme dans les autres évangiles, quand Jésus se lève de la prière, on a l'impression qu'il est déjà vainqueur. Il part pour réussir. Alors, toute la question, qu'est-ce qui s'est passé dans ces moments? Pourquoi ces moments tellement critiques, ces moments de lutte, de décision? C'est ce que nous allons voir ce matin. La semaine dernière, nous avons vu Jésus dans la chambre haute, vainqueur de nos troubles. Ce matin, je vous propose de voir Jésus dans le jardin, vainqueur de nos échecs. Et pour aborder ce texte, je propose les points suivants. Tout d'abord, le conseil de Jésus, le conseil qu'il donne à ses disciples. Ensuite, l'échec des disciples. Et enfin, la réussite de Jésus, là où les disciples ont échoué. Le conseil de Jésus, ensuite l'échec des disciples et enfin la réussite de Jésus. Tout d'abord, voyons ce conseil qu'il donne à ses disciples en verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Qu'est-ce que Jésus veut dire par ça? On voit encore Jésus, la sagesse qu'il avait, la maîtrise de son enseignement, une toute petite phrase qui englobe une grande sagesse et qu'on peut tous retenir, prier, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Dans les autres évangiles, veillez et priez. Alors effectivement, Gethsémané, c'est tout un enseignement sur la prière et sur la relation avec Dieu qu'on peut avoir. C'est vrai que les disciples et Jésus lui-même, dans les minutes et dans les heures qui vont suivre, ils vont être sujets à des tentations, ils vont être tentés. D'où ce conseil, ce commandement, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Mais bien sûr, c'est pas juste les minutes et les heures, c'est un conseil aussi pour toute la vie, pour réussir la vie. Et quand Jésus dit prier, il ne s'agit pas d'une simple formule à répéter, mais Jésus a en tête, il me semble, toute une relation avec Dieu, toute une dépendance sur Dieu, toute une communion avec Dieu qui conseille à ses disciples de maintenir, notamment dans ces instants. Et ça, je pense, on le sait, pour faire face à la vie avec son lot de tentations, son lot d'épreuves, il faut une dépendance sur Dieu, sur notre Père Céleste. Il faut cette relation avec Dieu. Et cette dépendance, cette relation se voit souvent par la prière, par une vie de prière. Vous avez expérimenté cela certainement lorsque vous êtes rempli de reconnaissance envers Dieu que vous exprimez dans la prière ou dans les cantiques, lorsque vous êtes conscient, vraiment conscient de son amour pour vous, lorsque vous êtes habitué à lui parler et à écouter sa voix en retour à travers sa parole. Là, face aux tentations, vous les dépistez plus facilement, vous les résistez plus facilement. Vous êtes plus fort lorsque vous avez cette relation, cette dépendance avec Dieu. Mais lorsque vous négligez tout cela, eh bien les tentations, les découragements, les mauvaises décisions ont souvent raison de vous, ont souvent raison de moi. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, bon conseil. C'est comme l'exercice physique. On se blesse moins lorsque le corps est entretenu et est en forme. Je sais que pour moi, si je fais mes abdos, je n'ai pas des problèmes au dos. Si je ne fais pas mes abdos, c'est sûr que j'aurai des problèmes. C'est comme ça la prière, la relation avec Dieu. Quand on entretient, c'est une telle relation, comme Jésus le dit ici, on peut résister, on est plus en forme. Et puis, ce qui est fort, c'est que ce que Jésus conseille à ses disciples de faire dans ces moments difficiles, ces moments de tentation, eh bien, il va le faire lui-même. Il va aller lui-même prier pour résister à la tentation. Parce que lui-même, je pense, dans ce jardin de Gethsémané, il va vivre un moment de tentation. Alors, sa réaction, c'est de chercher communion avec son Père. Il commence sa prière, justement, comme il nous avait enseigné, notre Père. Lui-même dit Père dans sa prière, verset 42. Et puis, au cœur de sa prière, cette prière bien connue, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Très belle prière. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et on a là un peu le cœur de ce qu'est la prière, chercher la face de Dieu, chercher à vivre avec lui. C'est la prière cherche à discerner la volonté de Dieu et cherche à l'adopter comme étant le meilleur pour nous. Non pas ma volonté, mais la tienne. Donc la prière, inspirée par la parole, par le Saint-Esprit, cherche à discerner la volonté de Dieu et puis demande la force pour l'adopter, pour l'aimer, cette volonté. Et finalement, Jésus, dans sa prière, il montre aussi... Il montre tout le problème au cœur de l'existence humaine. C'est que nous, les hommes, souvent, notre problème, c'est de rejeter la volonté de Dieu et de penser qu'il y a une meilleure voie que sa volonté. Notre problème, c'est de préférer notre volonté à la sienne. Et ça, c'est la vieille tentation depuis toujours de Satan. Il a fait ça avec Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu vous aime-t-il réellement? C'était ce qu'il insuait, ce qu'il essayait de faire croire à Adam et Ève. Est-ce qu'il vous aime réellement puisqu'il vous prive de ça? Est-ce que sa volonté est vraiment la meilleure? Dieu veut-il réellement ton bien? Est-ce que sa volonté est vraiment bien pour toi? Et ça, Satan, par ses tentations, nous le répète souvent. Il nous dit, non, la volonté de Dieu n'est pas bonne, agréable et parfaite. C'est ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite, pas celle de Dieu. C'est ton péché qui est bon, agréable et parfait, pas l'obéissance. C'est ton confort qui est bon, agréable et parfait. Ce sont tes envies qui sont bon, agréable et parfait, pas ce que Dieu veut pour toi. Alors ça, on le sait, sur le papier, on le sait, mais dans le vécu, c'est difficile, parfois, à vivre et à dépister. Si on entretient une relation avec Dieu et qu'on est tout à fait conscient de sa paternité, à quel point il veut notre bien, qu'on est conscient de ses promesses parce qu'on nourrit nos prières par ses promesses, qu'on est conscient de sa bonté parce qu'on a remercié Dieu pour toutes ses délivrances du passé, là, en général, on ne va pas croire le discours du tentateur envers Dieu. Oui, Dieu a réellement dit ça. Oui, Dieu veut réellement mon bien. Oui, Dieu, la volonté de Dieu est vraiment bonne, agréable et parfaite pour moi. Je le sais parce que je suis en communion avec lui et je le vis. Mais si on n'a pas cette vie de prière, cette réaction comme Jésus avait, là on commence à agir autrement. On dit, bah oui, c'est vrai finalement. C'est vrai, la volonté de Dieu n'est pas si agréable. Je devrais m'occuper de moi plutôt maintenant. Et on commence à réfléchir autrement. Vous voyez comment ça marche? Et si vous regardez la vie, le ministère de Jésus, il a été constamment tenté comme ça. Le Satan, le tentateur, est venu le voir plusieurs reprises. On a ça dans l'évangile de Luc, notamment. Et ce qu'on voit, c'est que la manière principale que Jésus a été tenté par Satan, c'est Satan qui lui conseille, qui lui suggère de passer par une autre voie, un autre chemin que celui de la croix, celui du sacrifice, celui de l'obéissance. C'était, si vous regardez les fameuses tentations dans le désert, où Satan l'a tenté à plusieurs reprises, au cœur de chaque tentation, c'était ça. Court-circuiter, en quelque sorte, la volonté de Dieu pour choisir la sortie facile, la voie facile. Et j'aime bien ce verset, j'aime bien. C'est fort parce que le verset en Luc, chapitre 4, verset 13, dit qu'à la fin de cette période de tentation dans le désert, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et ce n'était pas la fin des tentations de Jésus. Le diable revenait à la charge dans les moments favorables. Peut-être qu'il y avait ce moment où Pierre, avec des bonnes intentions, a conseillé, suggéré Jésus de ne pas prendre la voie du sacrifice, de souffrance de la croix à Jérusalem. Il a déconseillé, mais non, il ne faut pas faire ça. Et Jésus a su dépister la voix de Satan en disant « arrière-moi de Satan ». Mais si jamais un moment favorable pour tenter Jésus, je pense que c'était ici dans le jardin de Gethsémané, où effectivement c'est juste là, comme j'ai dit, dernière sortie avant le péage, Jésus, il peut encore éviter en quelque sorte le plan de Dieu. Trouver ça fort, il dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, au jardin. Selon sa coutume, il avait l'habitude de faire ça, mais il aurait suffi qu'il change un peu ses habitudes ce soir-là. Il s'est dit, mais j'ai pas envie de voir Judas finalement, je sais qu'il m'attend là-bas. Moi, au lieu de choisir le jardin de Gethsémané, je vais aller au jardin japonais, un autre jardin. Il aurait fait ça et voilà, on n'en parle plus. Mais non, et il ne va pas prendre cette sortie facile, la sortie non payante. Il va s'engager à partir de ce moment, il s'engage. Et là, une fois qu'il rencontre Judas, les événements se mettent en marche qui vont le conduire jusqu'à la croix. Mais on peut imaginer cette lutte qu'il avait dans ce jardin. Dieu a-t-il réellement dit que ça vaut la peine de sauver des gens tels que nous? Tu penses vraiment que ça va marcher, cette voie? Tu penses vraiment que Dieu va être là, qu'il va pas t'abandonner, qu'il va te ressusciter? Mais Jésus se tourne vers son Père dans la prière, non pas à ma volonté, mais à la tienne. Et voilà, il adopte la volonté de Dieu. Il lutte dans la prière, mais il se lève vainqueur. On a l'impression que déjà là, il part avec force, avec réussite. Et il conseille ses disciples à vivre la même chose. Eux aussi vont passer par un moment de tentation, prier. Et c'est répété à plusieurs fois. Levez-vous, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et c'est le conseil qu'il nous donne à nous tous. Priez, maintenez cette relation avec Dieu, adoptez la volonté de Dieu pour votre bien. Et comme ça, vous allez résister aux tentations. Très, très bon le conseil de Jésus. Voyons maintenant l'échec des disciples. En deuxième lieu, Jésus conseille cette prière, cette vie de prière à ses disciples, d'avoir cette habitude de se tourner à Dieu, de dépendre à lui dans les moments difficiles, les moments de tentation, dans les heures critiques. Donc il leur dit de veiller et prier. Lui, il le fait. Il veille et il prie. Qu'en est-il des disciples? Qu'en est-il de nous? Eh bien, ils s'endorment. Il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et verset 45, après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qui trouva endormis de tristesse. Selon les autres évangiles, vous savez, Jésus revient à plusieurs reprises pour les secouer un peu. Réveillez-vous, priez avec moi. Et chaque fois, il les trouve endormis. Alors, c'est l'échec total. Hein? Je me suis posé la question, si quelqu'un vous demande de prier avec lui, est-ce que ça se refuse? Si un frère en Christ vous demande, est-ce que vous pouvez prier avec moi? Je me dis, il faut prier avec la personne. Et la plupart de vous le ferez pour moi à tout moment. Alors Jésus demande à ses meilleurs amis, est-ce que vous pouvez prier avec moi? Est-ce que vous pouvez prier dans ces instants? Et ils sont. Alors on pourrait comprendre qu'ils étaient fatigués. Et c'est vers minuit, ils avaient déjà passé une journée bien remplie, beaucoup d'enseignements de la part de Jésus, beaucoup de choses émotionnellement lourdes qu'ils ont vécues cette journée. Être fatigué, ce n'est pas une faute. Jésus était fatigué lui-même à plusieurs reprises et il a dormi quand il fallait. Parfois, à des moments même qui surprenaient les disciples, dans la tempête, dans une barque, il dort. Parfois, la meilleure chose à faire pour assurer une bonne spiritualité et une bonne relation avec Dieu, c'est de dormir. Dieu n'est pas contre le sommeil. Mais là, vous voyez bien, ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment. Et le verset précise qu'ils étaient endormis de tristesse. Ce n'était pas la fatigue physique forcément. Ils étaient endormis de tristesse. Ils ne voulaient pas vraiment y penser. Tout ce qu'ils ont entendu, c'est le cadre, ça les plombait dans la tristesse, dans la déprime. Alors, au lieu d'entourer leur ami, leur maître, ils se sont laissés aller à la tristesse. Ils se sont laissés aller à la déprime et ils ont trouvé que la meilleure chose à faire, c'est s'endormir. Et quand vous regardez bien, les quatre évangiles, Luc ainsi que les autres, mettent l'accent sur l'échec total des disciples à ce moment critique de la vie de Jésus, dans cette dernière nuit. Donc, ils s'endorment de tristesse. Dans quelques instants, ils vont l'abandonner, alors qu'ils venaient de dire, on va le suivre jusqu'au bout, tu peux compter sur nous. Ils prennent la fuite. Dans Luc, le passage suivant, c'est donc Judas qui va trahir et puis Pierre qui va renier. Pierre, c'est vrai, va connaître la chute. il va tomber de la manière la plus spectaculaire, mais n'oublions pas qu'il a tenu un peu plus longtemps que les autres. Au moins, lui, il avait le courage d'aller suivre Jésus jusqu'à dans la cour, d'essayer de voir ce que cela a dû donner. Et c'est dans cette cour, autour de ce feu, on lui pose des questions, il va renier le Seigneur. Donc, au moins, il est là près de Jésus. Les autres, ils se sont sauvés bien avant. Alors, moi, je lis ça, chaque fois que je lis ça, je dis, moi, j'aurais fait mieux. Quand même. À ce moment-là, on aurait pu prier avec Jésus, ça aurait été un privilège. J'aurais fait mieux. Mais, détrompe-toi. En fait, c'est là, ce récit, c'est tellement typique de ma vie, c'est tellement typique de notre vie. Cet endormissement, spirituel aussi, hein, physique, mais spirituel, nous frappe. Et malheureusement, ça ne dure pas juste une heure, parfois, ou pas juste une nuit, mais ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois, ça peut durer des années. Ou, voilà, endormi spirituellement. Pas là où il fallait être, dans la volonté de Dieu. Pas dépendant sur lui, ses promesses. Pas vivant cette relation qu'on pourrait. J'aime bien, je crois que c'est Yann Newbery qui dit que la manière la plus facile de culpabiliser un chrétien, c'est de lui demander l'état de sa vie de prière. Pasteur inclus. Hein? La manière la plus facile de culpabiliser un chrétien, c'est de lui demander l'état de sa vie de prière. Avons-nous bien suivi le conseil de Jésus cette semaine? Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Cette année, sans parler des autres luttes et chutes que nous avons connues, et puis c'est un cycle vicieux, on ne prie pas assez, donc on n'est pas attentif à la voix de Dieu, on se trouve faible, sujet aux tentations et aux chutes. Finalement, les disciples, leur échec, on se retrouve si facilement. Le conseil de Jésus, l'échec des disciples, ce qui va nous rassurer un peu. Ce matin, c'est la réussite de Jésus. Et c'est ça qui est fort dans ce passage. Contrairement aux disciples, Jésus, lui, il a veillé, il a prié et il n'est pas tombé en tentation. Retenez ça du jardin de Gethsémané. Jésus n'est pas tombé en tentation. Mais il faut voir d'abord la lutte qu'il a menée. Hein. C'est peut-être le moment le plus fort, le plus difficile que Jésus a vécu face aux tentations. Le verset dit qu'il était en agonie, verset 44. Ce mot agonie, c'est la seule fois qu'il apparaît dans le Nouveau Testament. Un mot très fort, c'est ce lutte, une lutte terrible, une lutte émotionnelle, une lutte physique. On voit ce que ça donne sur même les effets physiques avec ces grumeaux de sang. Il y avait un lutte terrible, il est tellement stressé, tellement angoissé, tellement en proie à cette lutte, à ces émotions. Et au point qu'il a besoin d'être fortifié par un ange. Verset 43, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. D'ailleurs, on remarque que tous ces détails-là, c'est frappant. Finalement, c'est une scène peu probable d'être inventée. Hein. On dit souvent que les évangiles sont inventés, des histoires inventées pour présenter Jésus. Mais personne n'aurait inventé cette scène dans le jardin de Gethsémané. C'est vrai que l'histoire est remplie de témoignages de martyrs qui affrontent héroïquement et sereinement la mort. Et ça, c'est vrai, on trouve ça même chrétiens et non-chrétiens. Il y a des gens qui affrontent la mort, qui ont un courage face à la mort, pour les mauvaises raisons, pour les bonnes raisons. Encore ce moment, c'est dramatique, mais il y a des missions suicides, voilà, les gens se jettent comme ça dans la mort. Mais encore, encore plus encourageant, c'est les témoignages chrétiens, des gens qui ont affronté la mort avec une paix, avec un courage, avec une joie, avec un témoignage. Et on se les raconte pour nous encourager. Et notamment, j'ai retenu le témoignage de Jean Hus. C'était avant la réforme, c'est un premier martyr, c'était un précurseur de la réforme. Mais son témoignage a quand même aidé. La réforme a avancé quelques années plus tard, mais on l'a brûlé au bûcher et il chantait des cantiques, ce Jean Hus. Il chantait des cantiques devant la mort. Mais Jésus, c'est pas ce qu'on voit, c'est ça qui est troublant. Il est faible, il est en agonie, il est stressé, il est... Et même, je ne sais pas si dans votre Bible, dans la mienne c'est le cas, ces versets 43 et 44 n'apparaissent pas dans certains manuscrits, notamment les manuscrits plus tardifs. Les premiers manuscrits les ont ces versets et d'autres manuscrits ne les ont pas. Alors c'est possible qu'un scribe a vu ça, disait, mais c'est pas normal, depuis quand le créateur des anges a besoin d'un ange pour le fortifier, depuis quand on voit le maître de l'univers, le sauveur, le Dieu tout-puissant, agir comme ça. Donc, bien intentionné, mal informé, il les aurait écartés. Parce que en lisant, on dit, c'est trop humain. C'est trop humain tout ça. Comment se fait-il que Jésus était même plus fragile, plus faible que certaines martyrs qui l'ont suivi? Pourquoi tant d'agonie? Mais en fait ici, on sait que Jésus faisait face à quelque chose qu'aucun martyr n'a connu, ne devait regarder en face. Parce qu'il dit, il parle de cette coupe, verset 41, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe... » Et beaucoup pensent que dans ces instants de prière, de relation avec Dieu, Dieu lui montrait en quelque sorte ce qui allait endurer à la croix pour nos péchés. Donc il voyait cette coupe et il se mesurait vraiment ce qu'elle représentait. Il voyait le fond de la coupe, cette coupe qui signifie la colère de Dieu qui va devoir encaisser, boire à notre place. Et dans ces instants, il devient vraiment complètement conscient de ce qu'il va connaître à la croix. Et ça, c'est important de comprendre que Jésus savait ce qu'il attendait. En tout cas, Dieu lui a révélé en quelque sorte. Il savait ce qu'il attendait. Et ça qui produit cette lutte, cette agonie, c'est même son corps qui commence à produire les grumeaux de sang. C'est important de comprendre que Jésus était conscient de tout ça. Il faut savoir qu'il n'a pas subi par surprise. Vous savez, on menait les brebis et les agneaux au sacrifice. Et Jésus était l'agneau de Dieu. Mais Jésus était un peu différent de ces agneaux, parce que ces agneaux, on les amenait, on va dire, bêtement vers la mort. Ils ne mesuraient pas, ils ne savaient pas ce qui les attendait. Mais Jésus, ce qu'il a vécu là, ce n'était pas tout bêtement que les choses lui sont arrivées. Il savait ce qu'il attendait. Et quand on est conscient de ça, c'est ça qui est fort. Il le savait et il est allé quand même. Il le savait et il n'a pas pris la sortie facile. Il le savait, il s'est engagé. Je me dis, il y a bien des choses dans la vie où si je savais maintenant ce que je sais, je ne l'aurais pas fait. Mais Jésus ne pouvait pas dire, ah oui, si je savais ce que la croix m'aurait coûté, je ne l'aurais pas fait. Il le savait, grâce notamment au jardin de Gethsémané, et il est allé quand même. Et c'est là où on peut vraiment mesurer son amour pour nous, et puis toute sa réussite devant la tentation. Vous savez, Adam a été tenté dans un jardin et il a chuté. Il est tombé dans la tentation. Les disciples, ils ont été tentés dans ce jardin et ils ont échoué. Jésus a été tenté dans un jardin, et pour la première fois depuis Adam et Ève, il a réussi. Il a réussi la tentation. Et la sienne était encore plus forte. Adam et Ève, on leur a dit de ne pas manger un fruit d'un arbre. Jésus-Christ, sa tentation, c'était de fuir quelque chose d'affreux. Mais il a obéi. Jésus a été tenté dans le jardin, il a réussi. Il n'a pas mis en doute la volonté de Dieu. Il a accepté. Adam et Ève ont mis en doute la bonté de la volonté de Dieu. Et nous, ce que nous avons souvent fait, nous aussi. Mais Jésus l'a accepté. Et il a réussi. Il a réussi l'épreuve, il a réussi la tentation. Comme disait un commentaire que je lisais, dans le jardin d'Éden, Dieu disait à Adam, « Fais-moi confiance au sujet de l'arbre, n'en mange pas. » Dans le jardin de Gethsémané, Dieu a dit à son fils, « Fais-moi confiance au sujet de la croix, meurs-en. » Il a obéi. Dieu a dit à Adam, « Fais-moi confiance au sujet de l'arbre, n'en mange pas. » Il a désobéi. Dieu dit à son fils, « Fais-moi confiance au sujet d'un autre arbre, la croix. » Lui, il a obéi. Vous voyez la réussite de Jésus. Et c'est ça toute la bonne nouvelle pour nous. C'est ça tout notre salut. C'est parce que Jésus a réussi là qu'il peut nous entraîner dans la réussite, là où nous avons échoué. Pensez à cela. Chaque tentation qui vous a fait chuter, Jésus, face à cette même tentation, il a réussi. C'est ce que dit Hébreux. Il a été tenté en toutes choses, comme nous, sans commettre pourtant de péché. Chaque tentation qui vous a fait chuter ou qui vous fera chuter, Jésus face à la même a réussi. Toutes les prières que vous avez oublié de faire, vous avez raté à faire, vous auriez dû faire, mais que vous dormez au lieu, à la place, eh bien Jésus les a faites, lui. Et la Bible dit que ses prières à lui sont exaucées. Ses prières sont exaucées à cause de sa piété, à cause de son obéissance. Et les prières que Jésus offrait, c'est d'être délivré de la mort, mais aussi de pouvoir nous sauver, de pouvoir nous pardonner, de voir que cette mort allait vraiment produire la vie éternelle pour nous. Et Dieu a exaucé ses prières. Donc, on a vu la semaine dernière comment Jésus priait pour Simon. Sachant qu'il allait chuter, Jésus a prié pour lui. Et c'est grâce aux prières de Jésus que la foi de Pierre, de Simon, n'a pas failli. Et encore aujourd'hui, c'est parce que Jésus a réussi son épreuve dans le jardin, sa tentation, qui peut nous sauver et nous donner sa réussite. Il échange, il prend notre échec sur lui et il nous donne sa réussite.